Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. Notre peintre s'est attiré le succès avec sa production d'estampes en couleur. Retrouvons-la tout à son travail dans un nouvel atelier pour une demande outre-Atlantique. Prenons notre palette, pinceau et chevalet et posons-les en terre parisienne. Bienvenue chez Marie Stevenson Cassatt. En cette année 1891, le 9 décembre, Marie Cassatt perd son père, âgé de 85 ans, et se retrouve seule avec sa mère. Elle participe à l'exposition des vins à Bruxelles, exhibant ses 10 estampes japonaises. Par ailleurs, elle est sollicitée par Sarah Hallowell, déléguée du comité des femmes de Philadelphie conservatrice, et agissant pour Berthe Palmer, son amie. La demande concerne une fresque murale à réaliser pour le pavillon de la femme à l'occasion de l'exposition universelle de Chicago l'année suivante. Pour note, les Palmer détiendront une grande collection de peintures impressionnistes, à ce jour à l'Institut artistique de Chicago.
Une commande féministe.
Marie Cassatt va s'atteler à la tâche pour l'ornement du tympan sud, dont le sujet est la femme moderne. Le pendant de la salle sera décoré du motif opposé, la femme primitive, par Marie Fairchild MacMonnies. À cette occasion, Marie fait édifier un grand atelier tout en verre, lumineux, au château de Bachiviller, lors de sa location estivale de 92. C'est sur les conseils de Pissarro qu'elle loue, pour la seconde année l'été, cette demeure. Elle y reçoit la visite de nombreux amis et artistes. De même, elle se rend à Giverny le 30 octobre 92, rencontrée d'une part Claude Monet, ainsi que la colonie de peintres américains qui s'y est installée. La commande demande beaucoup d'énergie à la peintre. Elle écrit à un ami « Je suis tellement accrochée à mon idée que je n'ai plus le recul pour juger mon travail. À plusieurs reprises, j'ai été sur le point de faire venir Degas pour qu'il me donne son avis. Mais s'il en est d'humeur, il me démolira si complètement que je ne serai pas capable de me ressaisir à temps pour tenir les délais de l'exposition. » Marie ne fait pas le voyage pour Chicago et ne reviendra dans sa patrie qu'en 1898. Début 93, elle envoie donc sa composition achevée de la femme moderne par bateau pour l'Amérique. Sa grande œuvre colorée est composée de 3 scènes de jeunes femmes à leurs occupations quotidiennes. Celle-ci s'amuse, cueille des fruits au verger, symbole des fruits de la connaissance, ou joue du banjo pendant qu'une jeune fille danse seule tenant sa jupe. Accrochée à plus de 10 mètres de hauteur, la toile est peu observable. Malheureusement, l'accueil est plutôt nuancé malgré la réputation de l'artiste. Cette peinture, ainsi que celle de la femme primitive, n'existe plus de nos jours. Elles furent détruites lors du démontage du pavillon. Cette exposition fêtait les 400 ans de la venue de Christophe Colomb sur la terre américaine le 12 octobre 1492. Ce bâtiment, dédié à la femme, a été administré par une commission féminine, dont les œuvres exposées, la décoration, ne devaient être effectuées que par des Américaines. Le mouvement féministe prend de l'ampleur en Amérique aussi, dont Louisine Eve Meyer sera une fervente partisane. La femme est encore reléguée à ce jour aux occupations toutes féminines.
Marie Cassatt l'a bien retranscrit dans sa peinture, n'est-ce pas ?
C'est exact. À cette époque, l'émancipation de la femme est en gestation, puisque les premiers mouvements féministes, dont le suffrage des femmes, prend naissance en 1876 en France. Elle est encore soumise à son mari et elle n'aura le droit de vote qu'aux élections de 1945. Il n'est donc pas question de musarder seule dans les cafés, bars, pas plus que d'accéder à l'école des beaux-arts réservée aux hommes. Des académies moins prestigieuses accueillent les femmes peintres où elles peuvent apprendre le nu masculin, mais avec un modèle vêtu d'un caleçon. Il ne leur reste donc que leur univers quotidien à décrire, tels la toilette, les enfants, le jardin, les visites amicales, les sorties au théâtre, à l'opéra, les promenades dominicales. Tout un univers que Marie Cassatt retranscrit dans ses œuvres. La peintre fait la connaissance d'un industriel du fer, grand collectionneur aussi, Alfred Pope, et celui d'amitié avec sa fille Théodate, architecte. Paul Durand-Ruel organise du 27 novembre au 16 décembre 1993, dans sa galerie parisienne, une exposition de tableaux, pastels et gravures de Marie Cassatt, composée de près de 100 œuvres. y sont exhibées 13 estampes en couleur, 14 pastels, 17 tableaux, 50 gravures en noir et blanc, ainsi que des photos de la femme moderne. Pissarro déclare à ce propos.
Elle est décidément très forte.
Le 2 décembre 1993, Edmond de Goncourt, plus nuancé, annonce.
Exposition de Miss Cassatt, tentative de coloration de planches à l'instar des impressions japonaises, tentative intéressante mais encore incomplète.
Le critique André Mellerio, conseiller et ami du fils de Durand-Ruel, note dans la préface du catalogue de l'exposition.
Miss Cassatt connaît et comprend la femme du monde parce qu'elle est elle-même.
Ou encore,
dans le choix des teintes larges, sans empattement, respire la sérénité, tandis qu'en une atmosphère limpide, les personnages se meuvent librement.
Et en conclusion,
il faut le dire en toute sincérité, Miss Cassatt est peut-être à côté de Whistler la seule artiste d'un talent élevé, personnel et distingué que possède actuellement l'Amérique.
Ce jugement n'appartient qu'aux critiques, car en Amérique, les journalistes masculins n'hésitent pas à dénigrer Marie Cassatt et à lui trouver de meilleurs peintres. L'artiste en sera profondément affecté et préférera la France à sa patrie. De ce pas, retournons admirer quelques-unes de ses créations.
Du côté du musée.
Si la grande peinture murale du pavillon des femmes n'est plus, il subsiste des tableaux se rapportant à cette composition. En effet, de nombreuses études ont été réalisées. La leçon de Banjo est une gravure à la pointe sèche et aquatinte en couleur. Une femme donne une leçon à une fillette assise derrière elle. Le quatrième état se trouve à la Fondation Terra aux USA. Un tirage existe aussi à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Dans cette œuvre, les points colorés de la robe sont moins nombreux et les manches d'un coloris plus violacé. Le banjo fut inventé en 1859. Le potager ou l'espalier, dont un exemplaire est aux USA, un autre à Paris également, représente une jeune femme debout sur une échelle qui tend une grappe de raisin à un enfant nu dans les bras de sa mère. Marie se focalise sur les robes et le verger en espalier. En 1892, elle brosse à l'huile, jeune femme cueillant des fruits, musée d'art Carnegie, Pittsburgh. L'une d'elles cueille un fruit, le bras levé, tandis que l'autre, habillée d'une robe bleue, richement décorée de fleurs, la regarde assise dans une chaise. La peintre s'est attachée à la toilette de ces dames, dont une porte une robe moderne sans corset. Ce tableau suscita de la part de Degas le commentaire suivant.
« Je n'admets pas qu'une femme dessine aussi bien que cela. »
Par ailleurs, Marie Cassatt a exécuté un pastel, femme et enfant, devant une tablette où sont posés un broc et une cuvette, musée d'Orsay. Le titre décrit exactement ce pastel sur papier beige, où le coup de crayon vigoureux du décor, vêtement, s'oppose à la finesse et délicatesse des visages. Henri Roire, industriel, peintre et collectionneur, achète ce pastel. Il restera dans sa collection jusqu'à sa mort en 1912. À la vente Roire du 16 et 18 décembre, Paris Drouot, il passera dans la collection de Jean-Pierre et Louise Hugo jusqu'en 1974, avant d'être définitivement attribué au Louvre, après donation de la fratrie Hugo. Le 17 janvier 1994, Harry Whitmore acquiert la gravure « La toilette de l'enfant » au prix de $800. En voyage à Antibes, résidant dans la villa La Césarine, Marie Cassatt écrit le 6 février 1994 à Durand-Ruel. « J'ai reçu une lettre fort admirable de M. Whitmore. J'espère qu'il est aussi content de son tableau qu'il le dit. »
Une maison de campagne.
Grâce aux fruits de son travail, la peintre fait l'acquisition en 1894 du château de Beaufresne, daté du XVIIIe siècle, au Ménil-Téribus, dans l'Oise. C'est une grande résidence en briques rouges de forme rectangulaire, d'un étage et mansarde, dotée d'un vaste parc d'une dizaine d'hectares, d'un étang, de bois et prairies. Cette demeure appartenait au comte de Grasse, cousin d'une famille de Philadelphie. Marie va y recevoir ses amis, Degas, Pissarro, résidant à Éragny-sur-Epte tout près, sa famille, visiteurs, des artistes américains et les marchands d'art dont les Durand-Ruel. D'ailleurs, la fille, Marie-Thérèse Aude, habite non loin de là. Durand-Ruel n'a jamais hésité à rendre service aux peintres impressionnistes, leur avançant de l'argent quand ils étaient dans la gêne, comme Monet ou Pissarro. Le 1er mars 1994, Marie Cassatt sollicite le galeriste. « Je viens vous demander, si cela ne vous est pas incommode, d'avoir l'obligeance de remettre 5000 francs sur mon compte. Je suis en train d'acheter une propriété dans l'Oise. » En effet, le château a besoin de rénovation et de modernité. l'eau courante, le chauffage central, salle de bain, électricité vont y être installés. Elle va employer un chauffeur, 8 fermiers, 3 jardiniers, Mathilde Vallée, sa dame de compagnie. Si l'année précédente est le témoin de la disparition du peintre Gustave Caillebotte, 1895 est marqué par la disparition de l'artiste Berthe Morisot des suites d'une grippe. Cette année, on assiste à la première projection cinématographique des frères Louis et Auguste Lumière, pendant que Rodin inaugure ses Bourgeois de Calais. À cette période, Durand-Ruel organise l'exposition de Monet et ses cathédrales à Paris. Du 16 au 30 avril 1995, se tient à la galerie Durand-Ruel de New York, de la 5e avenue, une exposition de 64 œuvres de Marie Cassatt. Le marchand d'art présente pour la troisième fois la gravure Mère et enfant après 1891 et 93. C'est M. Havemeyer qui l'acquiert le 8 avril, avant l'ouverture officielle. Cette manifestation monographique rassemble tableaux, pastels, pointes sèches et gravures en couleur. On peut y découvrir Thomas somnolent suçant son pouce, Fondation et Collection Burle à Zurich. Femme assise avec un enfant dans les bras, musée de Bilbao. Mais le succès n'est pas au rendez-vous, et Marie déclare « Je suis déçue de ce que mes compatriotes aiment si peu mes tableaux. »
Voyage en terre de couleur, les impressionnistes.
Marie Cassatt, qui a fait des aménagements dans son château et parc, avec plantation d'arbres, d'arbres fruitiers, de rosiers, création d'un potager, ne se ménage pas à la tâche. L'étang va devenir une source d'inspiration pour quelques scènes de plein air. Elle a disposé son atelier dans la véranda, face au plan d'eau, au bout duquel est remisé dans un bâtiment sa presse à imprimer. Le moulin produit l'électricité de la propriété. De bon matin jusqu'au soir, elle s'affaire autour de ses plaques afin de produire de nouvelles gravures colorées. Justement, une fois n'est pas coutume, revenons au musée découvrir ces scènes de canotage qui, contrairement à Caillebotte, nous décrivent des femmes au plaisir nautique.
Du côté du musée.
Les loisirs se démocratisent après l'industrialisation et les nouveaux moyens de transport, tels le train dans les années 70. Les rives de la Seine, la côte normande, sont les destinations privilégiées des citadins en mal de nature. Les sports nautiques font leur apparition. Vers 1894, Marie Cassatt brosse à l'huile l'été à Chicago, Fondation Terra pour l'art américain. Une mère et sa fille, coiffées de leur chapeau, sont assises dans une barque dérivant sur l'eau. Elles admirent les canards. Le tableau, coloré, est brossé à grands coups de traits multicolores. Un an plus tard, en 1995, la barque glissant sur l'eau est toujours présente, avec deux femmes à bord cette fois, et une fillette nourrissant des volatiles. Intitulée « La nourriture des canards », cette pointe sèche, vernis mou et aquatinte en couleur, est esquissée dans le pur style des gravures japonaises. Le quatrième état est à la Fondation Terra, tandis qu'un autre tirage est à Paris. Les variations des teintes des vêtements, de quelques canards et de l'eau, en font la différence. La barque, d'un style plus épuré, est à Washington. Un homme de tonalité sombre rame de dos, tandis qu'à la proue du bateau se tient assise une citadine et son enfant sur les genoux. De grands aplats de couleurs, la barque coupée à l'arrière, une ligne d'horizon tout en haut de la toile, témoigne là aussi de l'influence japonaise. La scène se situe à Antibes au cours de l'hiver 93-94. Les portraits de maternité ne sont pas délaissés pour autant, comme en témoigne d'une part mère et enfant en robe verte à Paris, BNF, gravure aux nuances vertes. Un pastel, esquisse de paysanne avec son enfant, reprend le même thème de l'enfant, vêtu de vert, tourné vers la gauche, cette fois, au musée de Belgrade. Et, d'autre part, Thomas somnolent suçant son pouce, un pastel dont le visage du bébé est très expressif, de même que celui de la mère. Marie Cassatt a élargi sa palette avec ses scènes d'eau captées pour certaines dans sa propriété campagnarde au château de Beaufrêne. Laissons-la tout à sa peinture et retrouvons-nous prochainement pour de nouvelles créations dans Voyage en terre de couleurs.